chronique de Canal Académie.
Jean-Robert Pitt est en studio aujourd'hui pour parler de l'histoire et de la géographie de la bière.
Oui, il se trouve que la bière est une boisson extrêmement populaire aujourd'hui dans le monde et dont la consommation est en grand progrès, mais qu'on ne connaît pas très très bien son histoire ni la manière dont elle a conquis finalement l'ensemble de la planète. Donc étant moi-même géographe tourné aussi vers l'histoire et vers les questions culturelles, je vais tenter d'expliquer cette grande saga de la bière. Donc d'abord, il faut savoir que la bière est l'une des manières les plus anciennes de préparer les céréales, lesquelles apparaissent donc dans le croissant fertile au Proche-Orient, pour la partie qui nous concerne, nous en Occident, c'est-à-dire la partie orge, blé, épeautre, etc., aux environs de 10 000 ans avant notre ère, et qu'avant de savoir faire du pain, on a fabriqué de la bière. Et la bière n'était pas nécessairement à cette époque la boisson claire et pétillante et fraîche que l'on connaît aujourd'hui. Ça pouvait être une sorte de bouillie, puisque les céréales, une fois réduites en farine, mélangées à de l'eau, fermentent spontanément grâce aux ferments qui se trouvent dans l'air et que l'on peut donc obtenir cette bouillie. Et sans doute qu'au départ, ça a été fait par hasard. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu volonté de mettre à fermenter de la pâte. On consommait probablement davantage des bouillies cuites à base de céréales. Et donc c'est un accident lié à une inondation, à la pluie, qui a permis de se rendre compte que la bière fermentait spontanément et que finalement ça donnait quelque chose de d'agréable, d'un peu acidulé et de très digeste. C'est en fait, comme les céréales ne sont pas toujours très faciles à digérer, mais à partir du moment où elles sont fermentées, elles deviennent extrêmement digestes. Et puis, il faut dire que dès cette haute antiquité, on a maint témoignage archéologique et textuel, donc dès 3, 4, 5 000 ans avant Jésus-Christ, en Mésopotamie, on est fasciné par la fermentation, par ce processus qu'on ne sait pas expliquer. Il faudra attendre Pasteur pour qu'on puisse expliquer. Jusqu'alors, on croit à la génération spontanée, et dans l'Antiquité, on croit qu'il s'agit là d'une action directe des dieux. Cette fermentation, donc, est fascinante. Cette bouillie fermentée, si on la dissout, si on la dilue dans l'eau, elle donne une boisson extrêmement agréable et très nourrissante. Donc on peut dire que dès l'Antiquité, la bière, c'est le pain liquide. On a par exemple des témoignages très clairs de la fabrication de la bière à Sumer au 4e millénaire avant notre ère. Et donc à cette époque, c'est la boisson populaire, mais c'est aussi la boisson de l'aristocratie et du clergé mésopotamien. Et c'est aussi la boisson des dieux. On sait que les dieux s'enivrent volontiers à la bière et qu'ils se disputent entre eux après en avoir abusé. Au même moment, plutôt un peu plus tard, vers le 5e millénaire, en tout cas avant notre ère, apparaît dans les montagnes qui encadrent le croissant fertile une autre boisson qui va être, et qui l'est toujours, la concurrente de la bière, une autre boisson fermentée et qui est élaborée à partir du jus de baie qui pousse sur une plante qu'on appellera plus tard Vitis vinifera en latin, et qui est la vigne, tout simplement. La vigne pousse spontanément dans les montagnes du croissant fertile, et ces populations pastorales qui vivent dans ces montagnes, aujourd'hui c'est la Turquie, c'est l'Iran, c'est la Judée, c'est la Jordanie, ces populations plutôt pastorales, donc qui élèvent des animaux, prennent l'habitude de fabriquer, d'élaborer une boisson très agréable qui s'appelle le vin, elle aussi, donc liée à la fermentation spontanée par des bactéries qui sont répandues dans l'air et sur la peau des grains de raisin. Et cette boisson connaît un très grand succès dans les plaines. C'est-à-dire que les populations pastorales descendent vers les plaines pour vendre leur lait, leur fromage, leur viande, leurs animaux, leur peau et le vin, et achètent des céréales, puisque ces montagnes ne sont pas très propices à la culture des céréales, dans les plaines. Et c'est comme ça que les gens de Mésopotamie, de la vallée du Jourdain, de la vallée du Nil un peu plus tard, découvrent le vin, et que s'établit à ce moment-là une sorte de bataille entre la bière et le vin, et que progressivement, c'est le vin qui va l'emporter, au moins chez les populations qui ont les moyens de l'acheter, c'est-à-dire donc les aristocrates, les prêtres, et que petit à petit les religions évoluent. On voit que ces religions du croissant fertile se tournent vers le vin. On le voit par exemple concrètement dans les tombes pharaoniques où il y a déjà, vous savez que les pharaons sont accompagnés de nourriture et de boissons pour leur voyage dans l'au-delà, et on voit très bien le vin. Non pas remplacer, mais accompagner la bière, et à mesure qu'on avance dans l'Égypte, dans l'histoire de l'Égypte pharaonique, des vins de plus en plus nombreux, de plus en plus raffinés, de plus en plus vieux, avec des étiquettes marquant les provenances, etc. Donc il y a une véritable concurrence, et au point même que des dieux naissent autour du vin. Des dieux du vin naissent, donc dans la civilisation grecque c'est Dionysos, mais plus tard donc dans le christianisme évidemment ce sera le Christ lui-même qui dit prenant la coupe de vin, ceci est mon sang et vous ferez cela en mémoire de moi, c'est-à-dire qu'il lègue ce miracle de l'Eucharistie, ce sacrement de l'Eucharistie qui donne à tous les fidèles accès au corps et au sang du Christ, le pain, et sous les apparences du pain et du vin. Alors revenons à la bière. Le vin devient donc la boisson noble des grandes civilisations de la Méditerranée, je n'y insiste pas, et la bière... à ce moment-là, donc on est pendant l'Empire romain, la bière est la boisson des barbares. C'est la cervoise des Celtes, c'est mais aussi l'hydromel d'ailleurs, mais qui est moins répandu que la bière, puisque les céréales sont quand même faciles à obtenir, et tout le monde boit de la bière en abondance chez les Celtes, chez les Germains, chez les Slaves. Et le vin est une boisson de grand luxe qui est importée. Par exemple, nos ancêtres gaulois, 500 ans avant Jésus-Christ, achètent déjà du vin aux marchands grecs, qui ne savent pas le faire, mais eux boivent beaucoup de bière, et les jours de fête, eh bien, ils boivent du vin, et ils payent même une amphore de vin d'un esclave. C'est dire à quel point donc le vin est prestigieux pour eux. Et dès qu'ils deviennent romains, 50 ans avant Jésus-Christ, conquête de Jules César, ils apprennent à planter la vigne, à faire du vin, et le vin devient la boisson la plus fascinante, la plus prestigieuse, au point que les Gaulois en boivent trop, ils le boivent pur même, ce qui n'est pas un signe de civilisation, puisque dans l'Antiquité, on coupe le vin avec de l'eau. Donc la bière est repoussée vers le nord, où est une boisson quotidienne, elle ne disparaît pas complètement, mais ça n'est pas la boisson la plus prestigieuse, c'est le vin. Arrive la chute de l'Empire romain, la poussée des barbares, alors qui ne sont pas romanisés, vers le sud, et à ce moment-là, eh bien, à nouveau, c'est à l'envers la défaite du vin et le triomphe de la bière. Donc nos ancêtres francs, visigoths, burgondes, vandales, etc., boivent de la bière et très très peu de vin, sauf quand ils peuvent en trouver, quand ils peuvent en voler au cours de razzia. Mais il faut dire que la viticulture disparaît presque complètement à l'ouest de la Méditerranée pour laisser place à nouveau à la bière comme boisson fermentée. Et il n'y a que l'Église, avec ses monastères et ses évêchés, qui maintient un peu de viticulture autour de ces... centre de résistance, puisque le vin est nécessaire à la messe et que le vin est signe de civilisation. Donc sous Charlemagne, certes, Charlemagne boit du vin, et Charlemagne encourage la viticulture parce qu'il aime le vin et que le vin est nécessaire à la messe et qu'il est lui-même, il se sent héritier aussi de l'Empire romain, mais il boit aussi beaucoup de bière, et d'ailleurs il donne dans toute une partie de son empire le monopole de la fabrication de la bière aux monastères, aux moines. Et il en reste quelques vestiges de cette décision de Charlemagne en Belgique, puisqu'il y a des monastères qui continuent, des trappes, qui continuent à fabriquer la bière, les fameuses bières trappistes qui sont très, très raffinées. Donc dans tout le nord de l'Europe, où l'on essaye de boire du vin, d'autant plus que le Moyen-Âge, après, va être une période plutôt tiède où la viticulture est possible très au nord, jusqu'au Danemark, jusqu'en Écosse et jusqu'en Pologne. Néanmoins, tout le nord de l'Europe, c'est le monde de la bière qui, par exemple, donc Saint-Louis crée la corporation des brasseurs en 1268, et puis il y a en Bourgogne Jean Sempere qui oblige les brasseurs en 1435 à houblonner leur bière parce que c'est plus digeste, plus et le goût est meilleur et que c'est un bon élément de conservation, hein, d'hygiène. En 1516, il y a le fameux édit du royaume de Bavière, c'est la loi de pureté. Avec de l'eau de source, on fait la bière uniquement avec de l'eau de source, donc c'est une grande période dans toute l'Europe de croissance de l'art de brasser et par conséquent donc d'élaborer des bières de grande qualité. Alors bon, je n'entre pas dans le détail des opérations qui permettent de fabriquer la bière, le maltage, c'est-à-dire donc les grains d'orge trempés qui germent, puis que l'on fait griller, puis donc ce qu'on appelle le tourraillage, puis après vient le brassage de ces maltes broyées. Au départ, on laisse la fermentation se faire naturellement. Donc ça donne des bières assez sombres et assez fortes, dont il reste quelques vestiges en Angleterre. Hein, c'est l'ale qui est relativement pâle, mais il y a les stouts qui sont très sombres et qui sont des bières qui s'effectuent à température relativement élevée, puisque si on laisse la fermentation s'effectuer, ça chauffe assez vite et la bière devient très, très sombre. Et en même temps, c'est une bière qui se consomme à la température ambiante. C'est pas une bière que l'on consomme fraîche, c'est bien plus tard que l'on saura fabriquer la bière fraîche, et ce sont les Allemands qui apprennent à faire cela. Ça donne des bières beaucoup plus légères, beaucoup plus rafraîchissantes, désaltérantes, et pour cela, il faut freiner la fermentation du malt, et ça se fait grâce à de la glace. Donc les brasseries prennent l'habitude de conserver la glace qui est cassée sur les lacs en hiver et qui permettent de rafraîchir, d'empêcher une fermentation trop rapide, trop forte et trop tiède du brassin. Donc c'est la différence entre... Finalement, il y a trois grandes familles de bières qui donnent une géographie particulière en Europe. Il y a une fermentation qui a presque disparu, c'est la fermentation spontanée avec la flore naturelle, les bactéries du terroir. Il reste les lagueuses de Belgique, de Bruxelles par exemple, qui est une grande spécialité bruxelloise et qui donne des bières qui ont un peu le goût de cidre. Et puis il y a les deux autres grandes familles, la fermentation haute, où la température de fermentation se fait jusqu'à 25 degrés, ce qui est relativement chaud. Donc ça donne les bières brunes, dont l'Angleterre, l'Irlande, ce sont des grandes régions traditionnelles de production. Et puis la fermentation basse, qui est plutôt celle des pays germaniques, où l'on élabore des bières à la température on essaye de ne pas monter au-delà de 12 degrés. Donc il faut de la glace pour cela. Dans le nord de la France aussi, on trouve des bières de fermentation haute. Il y a des bières brunes très très sombres, y compris artisanales d'ailleurs, qui sont excellentes aujourd'hui dans le nord de la France ou en Belgique. Mais ce sont les îles britanniques qui sont la grande région, alors que l'Allemagne et l'Europe centrale sont vouées à la fermentation basse. La plus célèbre bière de fermentation basse, c'est celle que l'on élabore en Bohême, dans la ville de Pilsen, et qui a donné le nom Pils, qui est le nom d'une de ces bières. Alors après, bon, viennent toutes les techniques de pasteurisation, de conservation, et puis de consommation avec du gaz ou sans gaz. Quand on conserve la bière spontanément dans les tonneaux, il y a un petit peu de gaz, mais ce gaz s'évente, cette bière s'évente. Donc pour avoir de la bière piquante et bien rafraîchissante avec du gaz carbonique, il faut rajouter du gaz carbonique, donc ça on apprend. Tout cela, ça se passe à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Aujourd'hui, presque partout dans le monde, on consomme des bières plutôt froides, enfin de fermentation basse, mais que l'on consomme très froide et avec beaucoup de gaz carbonique à l'intérieur. Et donc, quand on regarde un peu la géographie de la consommation de la bière dans le monde, on s'aperçoit que le premier pays consommateur, c'est l'Allemagne. Chaque Allemand boit en moyenne, enfant compris, 161 litres par an. Ça fait beaucoup quand même. Et puis la République tchèque avec 157 litres. L'Irlande, 141 litres. L'Autriche, on n'est pas surpris, 110 litres. Le Luxembourg, 101 litres. Le Royaume-Uni, 101 litres. La Belgique, 96 litres. Le Danemark, 96 litres. Et puis on trouve des pays nouveaux. L'Australie, 91 litres, très influencé bien entendu par le Royaume-Uni. Les États-Unis, 81 litres, qui pendant longtemps ont été privés de bière pendant la prohibition, puis qui s'y sont remis, mais ils se sont mis aussi au vin, puisque les Américains boivent actuellement plusieurs litres, j'ai plus le chiffre exact et ça progresse tous les ans, de vin par an et par personne. Alors la France est aujourd'hui très très basse, puisqu'elle est à 35 litres de bière par personne et par an, alors que nous sommes à plus de 50 litres de vin. Mais il faut rappeler que nous étions à 150 litres de vin par personne et par an au début du XXe siècle. Et puis alors, il y a cette grande surprise pour le géographe qui s'intéresse aux questions culturelles de consommation, c'est qu'il y a des pays méditerranéens où vraiment le vin fait partie de la tradition, qui se sont mis à consommer de la bière. Portugal, 79 litres par personne et par an, c'est-à-dire deux fois et demi plus que la France. L'Espagne, 84 litres par personne et par an. Le Venezuela, 82 litres. Le Mexique consomme plus que la France, 51 litres, c'est l'influence des États-Unis. Bien entendu, les pays slaves consomment de la bière, du vin de plus en plus, mais aussi beaucoup d'alcool distillé, comme vous le savez, pour d'autres raisons qui ne tiennent pas seulement au froid, mais sans doute à la volonté d'oublier la dureté des temps. Alors la bière est vraiment partout dans le monde une boisson de sociabilité et de culture. Bien entendu, elle est malheureusement, je dirais, de plus en plus industriel, c'est-à-dire que c'est une sorte de disque rayé. Vous achetez une bière de grande marque, je ne vais pas citer de marque ici, mais elle a toujours le même goût. Vous êtes sûr d'avoir exactement le même goût. Vous pouvez avoir plusieurs cuvées, plus ou moins alcoolisées, etc., mais ça a toujours le même goût. Il n'empêche que ça peut être très agréable. Mais vous n'avez pas avec la bière, sauf avec les bières artisanales, par exemple les bières d'abbaye que j'évoquais tout à l'heure, vous n'avez pas ce plaisir extraordinaire d'avoir un produit qui est différent à chaque cuvée, qui est différent à chaque dégustation et qui est porteur de vie. Une bière pasteurisée est une bière morte, qui peut être néanmoins agréable, mais est une bière qui n'évolue plus, ça ne sert à rien de la faire vieillir, on peut la consommer, elle aura toujours, à n'importe quel moment, elle aura toujours le même goût. Mais ce qui est intéressant, c'est cette frontière entre le vin et la bière, et aujourd'hui, alors, dans des pays où la bière est vraiment au cœur de la civilisation, je pense à l'Angleterre, je pense à la Scandinavie, je pense aux États-Unis, à l'Australie, eh bien on voit à nouveau que la frontière, le curseur bouge, et que le vin est à nouveau en progrès, parce que le vin est devenu une grande boisson de civilisation. Les Chinois avaient appris à consommer la bière à la fin du XIXe siècle, grâce aux Allemands. La région de Tsingtao, par exemple, est une grande région productrice de bière traditionnelle en Chine, mais ça date du XIXe siècle. Et aujourd'hui, les Chinois consomment de plus en plus de vin. Quand on est chic, quand on est cultivé, quand on est internationalisé en Chine, on boit du vin et pas de la bière. Donc cette concurrence permanente entre le vin et la bière est vraiment un des phénomènes les plus récurrents, les plus anciens de l'histoire de nos civilisations et de l'histoire du rapport entre les hommes, leur environnement, les hommes et leurs boissons, également les religions, puisqu'aujourd'hui il n'y a plus, à ma connaissance, aucun rapport entre la bière et la spiritualité, en dehors de quelques bières d'abbaye, encore une fois, mais alors qu'il y en a toujours, que le rapport est puissant entre le vin, la civilisation, la spiritualité. Voilà, donc il y aurait bien d'autres choses à dire sur d'autres boissons qui, elles aussi, ont une histoire à la fois naturelle, économique, culturelle, mais la bière méritait qu'on lui rende un véritable hommage. C'est une boisson qui a favorisé la sociabilité et en même temps la santé. C'est une boisson très nourrissante et qui a beaucoup aidé l'humanité au cours de son histoire. Merci beaucoup de votre attention.